Vous écoutez
RMC.
Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'on veuille nous fasse croire qu'il ne s'est rien passé.
8x9, 64, 63.
Moi, encore une fois, je le dis souvent, quand il fait beau, il fait beau. Quand il pleut, il pleut.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute un podcast. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs de 20h à 22h. Messieurs, casting du soir, Oussem Loussaïef. Salut Oussem.
Salut Nico, bonsoir tout le monde. D'ailleurs Nico, tu dis bonjour pour ceux qui écoutent en podcast.
Ouais,
mais s'ils écoutent le soir.
Bonjour, bonsoir, vous écoutez un podcast.
Ok, bah, bonsoir tout le monde.
Tu as raison, tu es précis. Bonsoir Walid Acherchour.
Salut Nico, salut la Génération After.
Bonsoir Sofiane Zouaoui.
Salut Nico, salut Walid, salut Oussem.
Du Winamax FC, on est bien les gars.
Ouais, ouais,
on est bien ensemble.
Ouais. On est bien.
C'est Génération After sur RMC, il est 20h. Merci d'être avec nous au programme ce soir, les gars, l'équipe de France, bien sûr. On ira dans un instant, tiens, à Doha, retrouver un de nos envoyés spéciaux qui nous fera une carte postale, qui nous parlera également de l'arrivée des Bleus ce soir à Doha. Dernières informations concernant le groupe de Deschamps. Walid, un avis tranché, très tranché, intitulé ainsi, très efficace. On connaissait le panic buy. Deschamps invente le panic call.
Ces anglicismes dans Génération After.
J'en dis pas plus.
Ouais, tu vois, comment ça l'énerver.
Heureusement qu'il y a Sofiane pour un peu d'indulgence dans Génération After. Il faudrait être indulgent avec le sélectionneur de l'équipe de France. Il nous dira pourquoi également à partir de 21h. Et puis on sera avec notamment le fondateur de la Coupe Nationale des Quartiers qui s'est jouée à Créteil cet été. On connaissait la CAN des Quartiers. Il l'a rebaptisé et ça fait l'objet d'un documentaire sur Prime Video. Moussa Sow sera avec nous. Et puis un ancien du PSG, notamment de Nice, sera également là. C'est un peu la star de ce documentaire. Il est grand.
Oui. Il est beau.
Défenseur central. Il est chauve. Il est passé dans l'after.
Ah, il a fait partie du centre de formation de Gilbert Bribois.
Exactement. Un homme que Gilbert a repéré. Samy Traoré sera avec nous ce soir dans l'after, les gars. Voilà. Un beau souvenir. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars.
Salut, Gilbert.
Salut, Gilbert.
C'est un très bon souvenir, Samy.
Il a fait un été tranquillement. il a brillé de mille feux.
Avec Samuel Ipoua.
Exactement. Qui brille, lui aussi avait brillé de mille feux.
Voilà. Il sera avec nous à partir de 21h30. Qu'y a-t-il, Gilbert, au programme de l'after à partir de 22h?
Bah nous aussi, on va parler de Le Graët parce que forcément, vu que Daniel Riolo et Stéphane Guy arriveront à 22h, il faut aussi qu'ils donnent leur avis sur cette longue interview dans Rotten sans flamme. Toute l'actu de la Coupe du Monde, on parlera aussi de nombreux matchs amicaux d'aujourd'hui parce que mine de rien, il y en a eu quelques-uns. Bon, la France n'en joue pas, hein. Bon, ça peut se comprendre vu que la France joue un peu très vite dans le calendrier de la Coupe du Monde. Et puis à partir de 23h, on a fait venir quelques historiens de la Coupe du Monde pour vous rappeler des belles histoires, pour vous mettre à jour pour les plus jeunes afteriens qui nous suivent. Donc à l'occasion de sortie de bouquins intéressants avant le Mondial, on se remémorera quelques belles histoires méconnues des éditions précédentes de la Coupe du Monde. On va parfois remonter loin, parfois moins loin, mais voilà, on va se projeter complètement vers le Qatar. Donc c'est là 2 heures quasiment spéciales Coupe du Monde de 22h à minuit, puisqu'on est maintenant à 4 jours du match d'ouverture.
Exactement. On saura dans 4 jours ce qu'ont fait les Bleus, dans 5 jours même.
C'est quand le grand départ? Parce qu'on a vu
pour
la délégation française arriver, mais le grand départ de.
Le grand départ, le gros du départ, on va dire, certains y sont déjà, c'est vendredi matin.
Vendredi matin.
Si vous voulez nous accueillir à l'aéroport Charles de Gaulle à 8h25,
alors, il se peut que sur les réseaux de.
8h25, on décolle. Ce sera bon.
Oui, alors venez à 6h du matin.
6h30.
Il se peut que.
4h pour voir Jeannot Rességuier.
Il se peut que sur les réseaux de RMC Sport, on puisse voir pas l'entrée des joueurs au château, mais l'entrée de l'équipe d'RMC à Doha.
D'accord.
Il se peut.
Ah, tu vas faire des stories avec Nico Starbucks à 6h du mat.
Exactement.
Starbucks,
avec Jean-Louis Tour et sa
Oussem, on veut voir ça.
Avec Jimmy et son survêt pas légal.
Ouais, dégueulasse.
J'ai dit pas légal.
En tout cas, on a le seul mec qui s'habille comme les joueurs de l'équipe de France avec La Fontaine, Oussem Le Saïef, qui est avec nous ce soir, bien sûr. D'ailleurs, je dis ça parce que.
Pour ceux qui ne voient pas, mais.
Heureusement d'ailleurs.
C'est la veste.
Ne touchez pas au contraste.
C'est la veste Carambar Bigou qu'on peut avoir dans toutes les boulangeries de France.
T'as raison.
Ou dans les épiceries.
Et cette veste, vous pouvez la voir ce soir sur Twitch. Hein, nous sommes en direct sur Twitch. Twitch d'RMC Sport. Donnez-nous votre avis sur la veste.
Sacha et Flo, on les embrasse, les
streamers. Oussem Loussaïef. Messieurs, nous allons. Merci Gilbert, tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À partir de 22h, vous nous appelez au 3216 comme tous les soirs, évidemment. Le hashtag RMC Live sur Twitter et l'application RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires et participer au débat. Nous allons à Doha. Bonsoir Arthur Perrault.
Salut messieurs.
Salut, bonsoir Arthur. À tous. Un de nos envoyés spéciaux déjà arrivé il y a maintenant 48 heures. Arthur, c'est bien ça, hein?
Oui, exactement.
Température?
Température à 10h, 30 degrés. Et ça commence à retomber à partir de 16h. Avec un petit vent frais, c'est beaucoup plus agréable. Voilà, à partir de 16h.
Bon, ça devrait
20-25.
Ça devrait tomber encore un peu plus, je crois, hein, d'ici le début du mondial. C'est ce qu'on dit.
C'est ce qui est attendu ici, en effet. Ouais, c'est ce que nous disent les Qataris qu'on a pu croiser avec la cellule foot d'RMC. Voilà, dans 4-5 jours, il fera encore plus frais.
Donc, ce sera préférable de jouer avec
exactement.
C'est très intéressant au niveau de
en termes de température.
Bah c'est vrai que nous on ne mesurait pas ça avant d'arriver ici. On avait quelques personnes, quelques contacts qui nous disaient les températures actuelles ne sont pas vraiment normales. C'est vrai qu'il fait encore très chaud au niveau du ressenti. Pour vous dire, on a été prendre le métro avant-hier pour rejoindre le Media Center avec Loïc Brellet, Léna Marjac et Nicolas Pelletier et aussi Fabrice Hawkins. Et c'est vrai qu'il faisait 30 degrés, mais il y avait personne dans la rue. Les rues dans la matinée sont vides et au niveau du ressenti, on est bien au-delà de ces fameux 30 degrés. Donc voilà, c'est la chaleur va aussi être un élément à prendre en compte assez rapidement dans les préparations des nations.
Tout le monde reste dans la clim hein, au Qatar.
Oui, mais dans tous les pays du Golfe, c'est la ça. Même chose.
Et dans les stades, parce qu'il y avait la possibilité de
elle existe la possibilité et je pense qu'elle sera utilisée cette possibilité. Parfois, pas tout le temps, ça dépend de l'horaire du match, de la température. Ça existe et pour que ce soit utilisé, il fera parfois 30 degrés sur certains matchs. Alors Arthur, les Bleus sont arrivés ce soir avec un peu de retard, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement, ils ont atterri à 17h21 heure française avec comme premier joueur qui a posé le pied sur le sol qatari, Steve Mandanda. On a pu apercevoir le staff de l'équipe de France descendre ensuite de l'avion. Dans la foulée, ils ont rejoint leur camp de base qui est situé dans le quartier d'Al Messila, qui est au nord-ouest de Doha, un peu à l'écart, qui est un magnifique hôtel. Et donc ils sont arrivés là-bas vers 18h48 heure française. À mon avis, ils ont eu quelques soucis avec la circulation parce que normalement on a vérifié en regardant le GPS, normalement on met 20 minutes en temps normal. Là ils ont mis un peu plus d'une heure, aussi avec toutes les formalités qu'il y avait pour eux du côté de l'hôtel. On a pu apercevoir Kylian Mbappé et Karim Benzema au fond du bus en train de bien rigoler. Hugo Lloris qui a fait geste
rigolé,
envers les...
On est d'accord.
Comment ?
Il rigole pas, Hugo Lloris, en revanche.
Ça lui arrive des fois aussi, peut-être.
Peut-être qu'il rigole moins, mais en tout cas, ça a été le seul à faire un petit geste aux supporters qui étaient là, parce qu'il y avait quand même 200 expatriés français et locaux qui étaient devant l'hôtel Al Messila pour accueillir les joueurs de l'équipe de France, dont l'ambassadeur de France au Qatar qu'on a pu apercevoir. Et puis, on a aussi aperçu une dizaine, quinzaine de supporters indiens de l'équipe de France. Voilà, ces fameux supporters dont on parle depuis le.
Oui, ça, c'est fou, ça, quand même.
Notre arrivée ici au Qatar.
J'ai vu ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
C'est fou, finalement pas tant que ça.
Oui, mais. Mais tu sais qu'ils se sont constitués un groupe, hein. French Indians, je ne sais plus quoi le nom exact, mais il y a un vrai groupe de supporters de l'équipe de France. Après, quant à la véracité de ce groupe-là et la longueur.
Tout le monde très vite a dit que c'était certainement des faux supporters, personne ne l'a prouvé.
Oui, d'accord, déjà. Mais il y a beaucoup de supporters argentins.
C'est étonnant, c'est sûr.
Espagnols, anglais, allemands. C'est-à-dire qu'ils se sont répartis quand même leur volonté de supporter, non ?
Peut-être. Arthur, tu as des infos là-dessus ?
Oui. Alors justement, Loïc Brellet...
Cool, je trouve ça cool, hein ?
Bien sûr, mais c'est eux, ils sont arrivés d'un seul coup à 15 et c'est eux qui ont très rapidement mis l'ambiance avec des immenses drapeaux français, des tambours. Et du coup, Loïc Brellet a été échangé avec eux à un moment juste avant l'arrivée de l'équipe de France. Ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, sur place, on a encore un doute. Sur ces vrais faux supporters.
Je crois bien
que
c'est pas le seul.
C'est-à-dire qu'on a la sensation que c'est un groupe qui est très organisé. On ne peut pas parler à tout le monde. À chaque fois, il y a une sorte de porte-parole qui est là, qui, dès qu'il voit qu'on approche un autre supporter, qui vient vers nous pour échanger, eux nous disent qu'ils sont en lien avec les Irrestibles français, ils parlent avec eux. Voilà.
Qui est leur Clément d'Antibes?
Il y a un espèce d'organisateur de porte-parole. C'est peut-être leur Clément d'Antibes. Ouais. Mais là où il y a une vraie différence, et ce qui nous met encore plus le doute, c'est qu'ils ont tous des maillots neufs, floqués au nom des joueurs de l'équipe de France. Et surtout, il y a une différence dans les chants. Et ça, on n'avait pas vraiment pu le mesurer jusque-là. Et ce soir, on l'a vraiment mesuré. C'est-à-dire que, bon, on connaît les chants de l'équipe de France, des Irrestibles français au Stade de France. Là, c'est des chants en anglais. C'est We are the champions, welcome the French team, We are the champions,
welcome the French team. Dis-moi, est-ce qu'il y a un maillot floqué à Verretou? Ça, c'est un vrai indice.
Alors non. Alors j'ai vu des maillots, floqués Griezmann et Mbappé, mais pas de maillot floqué.
T'imagines, supporter d'équipe de France indien, il va revenir dans le dos.
Moi j'ai vu sur TikTok argentin, brésilien,
tunisien aussi, non.
Non, les Tunisiens sont de vrais Tunisiens. Il y a 30 000 expatriés qui vivent à Doha, donc ils sont arrivés en masse pour accueillir la sélection tunisienne.
Alors Arthur, ce soir entraînement, mise en jambe, quel est ton programme début?
Alors on a eu une précision d'ailleurs, parce que c'était noté sur le programme de l'équipe de France, séance d'entraînement à l'hôtel, donc dans les jardins de ce fameux Al Messila Resort. Finalement, c'était une séance d'étirement. On a eu la précision dès que l'équipe de France a atterri sur le sol qatari. Bon, il y a eu du retard sur le programme, comme je vous l'ai indiqué. Il y a quand même eu cette séance d'étirement. Ensuite, premier dîner dans leur hôtel pour les joueurs de l'équipe de France, en présence, encore une fois, de l'ambassadeur de France au Qatar. Ce qu'on peut vous dire sur le programme de demain, ce sera un réveil plutôt calme pour l'équipe de France. Voilà, objectif acclimatation, découverte de l'hôtel avec une immense piscine, puisque hier on a pu réussir à rentrer dans cet hôtel, immense piscine. Il y a le deuxième étage qui sera privatisé avec des chambres individuelles. Chaque joueur aura son portrait sur sa porte. Voilà, il y a un bar au bord de la piscine, des transats tout autour. Voilà, c'est un hôtel vraiment très luxueux avec un immense jardin. Ensuite, il y aura une conférence de presse d'organiser avec deux joueurs de l'équipe de France. Et dans la foulée, ce sera le premier entraînement ouvert au public sur invitation. D'ailleurs, on a pu croiser ce soir des personnes qui ont reçu ces fameuses invitations. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a plusieurs écoles locales, des écoles françaises, où on a distribué 20 invitations à des enfants. Voilà donc pour cet entraînement qui sera aussi ouvert aux médias.
Colomoni est arrivé ou pas encore? Parce qu'il faut
demain matin.
Il était au Japon.
Demain matin, exactement. Ouais, il était encore au Japon avec l'Eintracht Francfort. D'ailleurs, l'Eintracht qui avait un match amical face au Urawa Red Diamond ce midi. Lui a pris l'avion tout seul. Le club nous indiquait qu'il était vraiment au meilleur de sa forme. Et donc voilà, il devrait arriver ici à Doha demain. Alors,
c'est marrant, c'est ton camarade qui est sur place également, Fabrice Hawkins, c'est RMC Sport qui nous a envoyé les infos concernant l'appel de Deschamps à Colomoni. Il a appelé à 7h du matin, heure locale, heure japonaise. Il venait de se réveiller. Premier appel. Deschamps.
Bon réveil.
Qui lui dit Nkunku est forfait. Est-ce que Randall, tu souhaites faire passer de l'aventure Qatar 2022?
Est-ce que t'as le numéro d'Indica ou pas, s'il te plaît?
T'imagines le truc incroyable.
C'est bon ça.
T'imagines. Exceptionnel.
J'ai pas son numéro. Est-ce que tu peux me l'envoyer?
Je cherche un peu Indica depuis 10 minutes là.
Je galère.
Nkunku, c'est un truc qu'on a tous écrit une fois dans le vie. C'est arrivé déjà, non?
Va toquer à sa porte, s'il te plaît. Nkunku, c'est un offensif quand même, Didier, non? Oui, mais non. En fait, je veux un dixième défenseur.
T'as jamais arrivé ça, Walid?
Non.
Une femme t'appelle que tu aimes beaucoup et que tu demandes le numéro de ton meilleur pote?
Non, jamais.
Jamais. Jamais, toi, non.
J'ai pas eu le...
On l'appelle pas.
Non, mais vraiment, ça t'est déjà arrivé, tu m'as
alors, ça a dû m'arriver, oui, bien sûr. Les gars, donc voilà, un mot également sur la logistique, t'en parlais un instant, parce que ce qui est important de préciser, c'est qu'ils ont anticipé à la Fédération française de football après le présumé raté lors du mondial en Russie 2018, Arthur. À l'Euro, pardon, 2021.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a cet objectif demi-finale de fixé par Noël Le Graët, qui l'a d'ailleurs rappelé dans son entretien à RMC Sport. C'est vrai que bon, il y a une véritable attente ici. On ressent autour de cette équipe de France. D'ailleurs, on l'a quand même senti sur les visages des joueurs ce soir hein, dans le bus. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus concentrés. Vous parlez du goliorisme, bon, il y a eu ce petit geste, mais voilà, le groupe France sait qu'il doit être au rendez-vous. On a pu discuter avec ces expatriés dont je vous parlais il y a quelques instants, eux aussi ont très peu d'espoir. Ils nous disent oh, si on fait quart de finale, ce sera très bien. Donc voilà un peu le ressenti ici autour de cette équipe de France.
Merci beaucoup Arthur Perrault. On te retrouve très bientôt sur RMC. On vous rejoint bientôt les gars. À très vite. C'est quoi le programme ce soir pour vous les gars?
Alors moi je fais un autre direct dans deux heures. On va aller manger dans l'hôtel, parce que sachez messieurs qu'il y a un restaurant bar dans cet hôtel juste au-dessus. C'est pas très bien isolé, on l'entend beaucoup, mais voilà, c'est plutôt pratique.
Je suis assez déçu parce que connaissant Arthur Perrault, normalement tu dors dans l'hôtel des Bleus, tu te caches et tu essaies d'être là dès le lendemain.
Alors on a réussi à rentrer hier déjà. C'est déjà pas mal.
J'ai vu ça.
Mais on prépare le reste. On a été repéré le stade d'entraînement, d'ailleurs le stade qui sera dédié à l'équipe de France. France qui s'appelle le stade Hassim Bin Jassad, qui sera donc tout au nord de Doha. Donc voilà, pour les entraînements demain, ça peut être important.
Bonne soirée à toi, Arthur. Très bonne soirée, à très vite sur RMC, les gars. Première pause dans un instant. L'avis tranché de Walid Acharchour après l'appel de Deschamps à Kolo Muani pour remplacer Nkunku. Walid, un avis très précis là-dessus. On vous attend au 32-16 dans Génération After sur RMC. Il est 20h14 avec Sofiane Zouaoui, Oussem Loussaïef, Walid Acharchour. Appelez-nous, à tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Merci d'écouter RMC, Génération After. Il est 20h16 avec Walid Acharchour, Oussem Loussaïef et Sofiane Zouaoui du Winamax FC. Les gars, on est ensemble jusqu'à 22h. L'équipe de France en 4 jours face à l'Australie, bien sûr. Ça approche. On vous l'avait appris peut-être en écoutant l'After hier. Nkunku blessé, forfait dans 6 jours pour l'équipe de France. Pas dans 4 jours. C'est Gilbert qui m'a dit en erreur.
Oui. Mardi.
4 jours, c'est le mondial.
France Australie.
Donc vous l'avez appris hier en écoutant l'After peut-être, Nkunku blessé, forfait pour le mondial. On l'a dit à l'instant, Kolo Muani appelé par Deschamps. Tiens, quelques nouvelles Nkunku, t'es renseigné, t'as contacté son entourage.
Exactement. J'ai eu des personnes autour de lui aujourd'hui. Alors bien évidemment, il est très déçu. C'est une terrible nouvelle puisque lui, il voyait en cette Coupe du Monde un moment et un trophée à aller chercher, surtout un moment pour essayer d'évoluer dans sa carrière. Il faut savoir que Christopher Nkunku, c'est un joueur qui cherche toujours à s'améliorer. Il a fait des choses dans sa vie privée pour atteindre ce niveau-là. Il le fait toujours. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est ressorti lorsque j'ai passé des coups de fil, c'est que il est déjà dans le monde d'après. Alors il est déçu, il est un peu groggy, mais au moins il est déjà dans le truc d'après. Par exemple, ça, autour de lui, on lui a dit coupe un peu, prends 2-3 jours peut-être de vacances, ça va te couper et tout. Et lui, il est déjà non, j'ai un dernier examen à passer demain et je suis déjà parti sur ma convalescence. Il faut que je revienne le plus vite possible. Il faut que je retrouve mon niveau. Donc il est déjà dans ça. Et surtout, autre chose, et ça, c'est ce que je l'ai appris. Il a communiqué, je crois, il y a quelques minutes sur ses propres réseaux sociaux. Il est revenu sur la fameuse blessure. Et en fait, j'ai appris que, et il le dit un peu avec des mots, c'est pas très précis, mais nous, l'info qu'on a, c'est que Eduardo Camavinga n'y est pour rien sur sa blessure.
Oui, il glisse, on le voit un peu.
Et il s'est fait détruire, le pauvre Camavinga, sur les réseaux sociaux, à la suite de la blessure. Alors que, autour de Christopher Nkunku, on me dit qu'il n'y est pour rien, qu'il n'y a même pas de, contact sur la blessure. Donc il a tenu à réaffirmer ça et ça lui tenait à cœur de communiquer là-dessus et de dire que le jeune Camavinga n'y était pour rien.
Ouais, parce que l'absence elle peut durer jusqu'à 2 mois, donc ça ira au-delà de la Coupe du Monde, donc il faut qu'il pense aussi à lui pour son retour avec Leipzig.
Surtout qu'il y a un 8e de finale de Ligue des Champions.
Exactement. Il est déjà dans le monde d'après.
Ouais.
Il a écrit.
À lui, bien sûr.
Nkunku a écrit une pensée pour Eduardo, injustement pris pour cible. Voilà. Il a été précis.
Surtout quand on voit la nature des insultes dans la lettre sur les réseaux sociaux. Écoute, c'est vrai que c'est malheureux.
Un coup classique.
Mais j'ai été surpris, moi,
ça ne changera pas.
J'ai été surpris pour vous dire la vérité. Quand j'ai eu l'entourage, je me suis dit, il doit être un peu giflé, le pauvre, et tu vois, il doit être un peu KO. Et finalement, au contraire, on m'a montré qu'il était très motivé, déjà prêt et d'attaque pour repartir, en tout cas.
Très bien. Merci, Oussem, pour ces précisions. Avis tranché, Walid Acharchour, on connaissait le panic buy, Deschamps a inventé le panic call. Jingle.
On n'a pas joué en 3-2-4, non?
Tu parlais pas de Deschamps, c'est sûr.
Je parlais d'un autre sport.
Nous t'écoutons, mon cher Walid.
Oui, je voulais revenir, Nico, sur le choix. On parlait d'Nkunku avec Oussem précédemment. Je voulais revenir sur le choix d'avoir pris Kolo Muani à la place de Nkunku. Et mon avis en découle. On en avait parlé un petit peu hier avec Disasi, qui a remplacé notamment Kimpembe. J'ai vraiment l'impression, et c'est pas contre Disasi ou Kolo Muani, mais et surtout Kolo Muani, parce que moi je le voulais à la place de Marcus Thuram juste avant. Il est dans une très très bonne dynamique avec Francfort, des très très bonnes statistiques. Il avait été très bon aussi en Ligue des Champions, et donc c'est plutôt mérité. Mais en fait, dans la constitution de liste et dans les choix de Didier Deschamps depuis ses petites blessures, déjà dans sa communication, au début il nous dit 25, et puis après il nous dit non mais je garde une possibilité d'un 26e, et puis derrière il prend Marcus Thuram. On comprend pas trop la cohérence de Didier Deschamps dans les profils. On va pas revenir sur les défenseurs. Et là encore une fois sur le choix Nkunku, alors que Nkunku était un créateur, on le voit à Leipzig, on l'a vu avec l'équipe de France, qui pouvait remplacer ou concurrencer un Antoine Griezmann, notamment dans ce registre-là. Et ben il va prendre un Kolo Muani qui est un numéro 9 plutôt mobile, plutôt mouvant, même s'il peut jouer ailier, il l'a déjà fait avec Nantes, mais avec Francfort, il joue au poste de numéro 9 entouré de Götze et de Lindstrom. On l'avait vu contre Marseille notamment. Et là, j'ai l'impression encore une fois que au lieu d'aller chercher peut-être un Fekir, au lieu d'aller chercher peut-être un Moussa Diaby qui, même si il est pas calqué sur Nkunku dans le positionnement au Bayer Leverkusen, il joue dans cette position un peu axiale dans une ligne de 2. En tout cas, c'est pas un numéro 9 comme Kolo Muani. Il montre encore une fois qu'il est un peu, après c'est normal hein, bien évidemment, le métier de Didier Deschamps est pas simple avec les blessures Nico, mais il montre encore que dans le choix des profils, dans le fait d'essayer de partir sur un plan A et d'essayer de calquer le plan B sur le plan A, on a l'impression qu'à chaque blessure, bah en fait il part sur quelque chose de différent. Il y avait eu déjà sur la première liste initiale où ma lecture était que vu que Kanté et Pogba ne sont plus là, et ben il doit changer de système de jeu avec un milieu à 3 peut-être, une défense à 4 pour essayer de revenir un peu plus pragmatique. Il y a eu le changement de Kimpembe. Alors il aurait fallu un profil stopper gauche, il prend pas Badiachil alors que Badiachil jouait sur le dernier rassemblement et correspondait à ce profil-là, il prend un Disasi. Là encore une fois Nkunku est hors du groupe, il va prendre un Kolo Muani. Sur Marcus Thuram, on n'a pas trop compris parce qu'à l'époque entre Marcus Thuram et Kolo Muani, le mec le plus en forme et celui qui était dans la dynamique groupe avec l'équipe de France, c'était Kolo Muani et pas Marcus Thuram. Il va prendre Marcus Thuram. Il y a des choses vraiment que je comprends pas et j'ai l'impression qu'il est un peu en tout cas moi il me donne cette impression. Après bien évidemment c'est Deschamps, il a la recette, on va encore sortir l'argument phare 2018 etc, on peut pas critiquer, mais moi j'ai l'impression, il me donne cette impression que dans ces choix là il est un peu à l'emporte-pièce.
Tu n'as pas le décodeur Deschamps, Walid.
Oui, je suis là pour poser des questions et
je suis franchement d'accord.
Pourtant, ça fait 6 ans que j'essaie de le lire. Hein.
Je suis d'accord sur beaucoup de choses que tu as dites, mais en fait, quand tu regardes bien, et tu as raison, parce que quand tu parles de la défense à 4 et du fameux milieu à 3 qui va se transformer en milieu à 4, parce qu'on sait tous que c'est Antoine Griezmann qui va aller fermer le côté droit, tu te rends compte que la sélection de Randal Kolo Muani, elle est justifiée. Tu vois, tes deux lignes de 4. Et mettons l'exemple de prendre, tu parlais de Nabil Fekir. Où est-ce que tu le mets dans ces deux lignes de 4?
Mais aujourd'hui, moi, Griezmann, moi, je parle de. Dans cette liste-là, qui sont les créateurs, en fait?
Mais t'en as pas, Walid, tu vas avoir du Didier Deschamps, tu vas avoir deux lignes de 4, et Benzema et Mbappé devant, Benzema, ils s'entraînent, qui reviennent.
Du coup, est plus un dynamiteur.
Exactement.
Créateur,
et donc, Randal Kolo Muani.
Après, encore une fois, le terme créateur, il est un peu fourre-tout. Tout le monde crée, même le défenseur central peut créer.
Je suis d'accord avec toi.
Il n'y a aucun problème là-dessus.
Kolo Muani, 9 passes D en Bundesliga, c'est un joueur qui est capable de proposer.
Il y a des ailiers qui créent, il y a des latéraux qui créent, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je parle de, quand je dis joueurs axial, offensif, qui peuvent, par la passe, par la combinaison.
Il en veut pas, Didier Deschamps, Walid.
Pourquoi Nkunku était là alors?
Parce qu'il devait rentrer sur les deux postes de devant, soit Mbappé, soit Benzema.
Ah non, pour moi, Nkunku était en concurrence avec Griezmann. Pour moi.
Si tu veux, il va rentrer à la place de Griezmann sur le couloir droit.
Le 4-4-2 que tu évoques.
Oui, à la perte de balle.
Là, tu viens de dire que tu lis le Deschamps. Moi, j'ai toujours pas ce décodeur là. Tu viens de m'apprendre qu'on allait jouer en 4-4.
Non, on va jouer en 4-3-3 avec un ballon et à la perte de balle, Rabiot sera le milieu gauche et Griezmann sera le milieu droit.
D'accord.
Comme il a toujours fait Didier Deschamps, il va avoir deux lignes de 4 et il va envoyer à Benzema et Mbappé, débrouillez-vous, attendez de temporiser s'il y en a un qui se projette et Randal Kolo Muani, pour en revenir sur l'aspect technique du terrain, il est capable de faire ça, il est capable de désaxer, il est capable de jouer dans l'axe, il est capable de prendre la profondeur,
il est capable de jouer sur le petit ballon, sur les petits jeux.
Il est capable de faire ça. Donc c'est pour ça qu'un profil comme Nabil Fekir, moi je suis d'accord avec toi, mais tu prends qui? Nabil Fekir, moi j'aime beaucoup, mais il peut pas jouer dans cette équipe de France là, à moins que tu le considères comme une concurrence à Fofana, tu vois, Mini Rabiot. Mais tu peux pas jouer.
Je pense dans son état d'esprit déjà, il est plus sur une idée de joueurs qui ne sont pas exclusifs. Dans
exactement.
Le sens où je pense qu'un joueur comme Randal Kolo Muani, après on pourra être d'accord ou pas d'accord,
il peut
jouer selon lui à droite, il peut jouer en neuf. C'est la même chose avec le débat de Marcus Thuram. On se demandait pourquoi Marcus Thuram il le prend alors qu'il a déjà des numéros 9, il a déjà assez de numéro 9. En réalité, le considère Marcus Thuram puisqu'il l'a utilisé comme ça, aussi en ailier gauche où on a une faiblesse puisqu'il n'y a que Kylian Mbappé pour le moment, éventuellement Kingsley Coman à ce poste-là. Mais je crois que dans cette liste, la façon dont il la constitue, déjà de base, je pense qu'on s'est trompé sur le poste de Nkunku et moi, je suis avec toi sur ce côté-là. Je pensais qu'il l'utilisait en seconde Griezmann. Je crois qu'il l'utilise beaucoup plus en joueur côté droit ou axial dans les deux de devant. Donc déjà de ce postulat-là, on s'est loupé. Donc s'il prend Randal Kolo Muani, il m'indique peut-être aussi qu'on est dans un système beaucoup plus en 4-3-3 avec des ailiers de débordement. Donc peut-être que du côté de Deschamps, l'objectif de ces listes et surtout de ces remplaçants depuis le début de la semaine, c'est peut-être de limiter au maximum les incertitudes au niveau des formes et donc de prendre des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes et dans plusieurs registres. J'ai pas ça avec Fekir. Et si tu veux parler de Diaby, on pourrait considérer que c'est aussi une bonne idée, mais peut-être qu'il a vu un petit peu plus Kolo Muani cette saison, que Kolo Muani, il est quand même un peu plus en forme que Diaby, même Diaby si Diaby revient bien sur les dernières semaines, mais globalement le début de saison du Bayer Leverkusen est moyen.
Diaby se rapproche beaucoup plus d'Nkunku que Kolo Muani, je suis désolé, je pense que c'est à côté pour moi. Kolo Muani aujourd'hui Kolo Muani pour moi aujourd'hui c'est pour vous c'est un Dembélé, c'est un Coman, c'est un Diaby.
Non, c'est un peu différent.
C'est un axial.
Les gars, on prend le jeu débat parce qu'il y a des appels au 32-16. On sera avec Rachid également dans un instant. Vous pouvez nous appeler bien sûr vous aussi pour participer au débat avec Oulé Dacharchour, Sofiane Zouaoui et Oussem Loussaïef. Les gars, je voudrais quand même qu'on ait un mot pour l'arbitre et la famille de l'arbitre, Johan Hamel, qui est décédé brutalement à l'âge de 42 ans, qui a arbitré encore en Ligue 1 le 6 novembre dernier, le match Lille-Rennes, tragiquement disparu. Pensez à sa famille, à ses enfants également. Voilà les gars. Dans un instant, on prolonge sur l'équipe de France avec tous les trois et vous au 32-16. Vous écoutez Génération After sur RMC, il est 20h27.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Oussem Loussaïef, Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour, les gars, on est ensemble jusqu'à 22h. Les infos tout à l'heure, on parlera également des matchs amicaux qui sont joués, notamment celui de la Tunisie. Cher à Oussem.
L'équipe qui va gagner la Coupe du Monde.
Évidemment, tout simplement.
Tu nous fais une Samir Eto'o?
Sobriété.
Non.
On parlera de l'Argentine de Messi aussi. Et sachez peut-être que ça va tomber chez nous, Ronaldo, l'interview, partie 1 est diffusée ce soir en Angleterre.
Oui. Et apparemment, alors, il met une charge
Piers
à Messi.
Piers Morgan, hein. Est un homme sulfureux.
Il sait vendre son truc.
Qui sait, bon, après, une grosse exclusivité. Hein. En plus, c'est tombé du camion. Hein. Il a demandé, c'est Cristiano qui l'a appelé, parler. A priori, il va en mettre 2-3 Messi, selon Piers Morgan.
Ah ouais. Ah.
C'est ce qui est dit. Méfions-nous.
Toi aussi, Nico, un jour, un grand joueur t'appellera, te dit écoute. Peut-être. Mbappé, il va t'appeler, il va dire je veux communiquer.
Seule possibilité, moi, ce serait quoi, Nicolas Savino qui pourrait m'appeler. Ça vous fait rêver, les gars.
Ouais. Marc Planus.
Bien, c'est
Marc Planus, non. Zéro contact.
Ah, zéro contact. Non.
Mickaël Andro, éventuellement.
Ah. Il y a des choses à raconter.
Ouais. Les gars, le handball également. L'équipe de France déjà qualifiée pour la suite de la compétition pour les demi-finales.
Waouh.
Joue quand même ce soir, Nico Palancy, France-Espagne. Bonsoir, Nico.
Salut, Génération After. Salut à toutes et à tous. Vous voyez, c'est un match pour du beurre. Hein. Les Françaises sont qualifiées, sont sûres de terminer première de leur poule. Et donc, du coup, on fait énormément tourner du côté d'Olivier Crumbles. Toutes les cadres sont au repos. On a fait entrer dans les 16 joueuses sur la feuille de match 4 réservistes. Autant vous dire qu'on est clairement en train de préserver les organismes avant de filer en Slovénie pour jouer la demi-finale. On ne connaît pas encore l'adversaire des Bleus. Il y a quand même un match à jouer ce soir. Pour l'instant, 1-0 pour l'équipe de France après 2 minutes de jeu contre l'Espagne.
Merci, à tout à l'heure. Nico, on prend le jeu débat sur Kolo Muani. Est-il l'homme qu'il fallait appeler pour remplacer Christopher Nkunku? Le débat était animé. Je vais accueillir Rachid de 32-16. Salut Rachid.
Salut l'After, salut.
Bienvenue dans Génération After,
c'est
Rachid.
Sofiane, Walid, j'espère que ça va.
Rachid,
t'es en pleine forme?
Nickel. Ouais, franchement super, ça fait plaisir. Je vous écoute tous les jours, tous les soirs. Ben ça bouge pas depuis des années.
C'est un plaisir de t'accueillir, voilà. Rachid. Alors ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que, pas comme Walid, que Kolo Muani n'était pas l'homme idoine à appeler pour remplacer Nkunku?
Non, bah moi déjà je suis souvent d'accord avec Walid, déjà j'aime bien ses analyses.
C'est gentil.
Et puis pour revenir, t'as tout dit Walid, franchement t'as tout dit, mais Fekir, mais il est où? Moi je comprends pas, comment ça se fait que le mec a disparu des radars comme ça? Je comprends pas. Le mec vraiment, j'ai l'impression qu'il n'existe plus aux yeux d'échange, même un peu aux yeux de la presse quoi. Fekir, il a complètement disparu. Putain, il faisait partie de la liste des champions du monde quoi.
Rachid, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu le mets? Où est-ce que tu le situes sur le terrain, Fekir, aujourd'hui? À quel poste? Quelle est sa concurrence en équipe de France?
Moi, j'étais pas d'accord quand vous disiez que vous avez du mal à le placer dans les différents systèmes que met en place Deschamps. Parce que, pour moi, que ça soit, enfin, qu'il joue avec une défense à 3 ou à 4, à partir du moment où Griezmann peut jouer dans cette équipe, pour moi, c'est vraiment le même profil que Griezmann.
Oui, c'est la concurrence de Griezmann. Ok.
Voilà.
Bah, en 2018, c'était le cas, en tout cas.
Voilà. Aux yeux d'Deschamps, je comprends que Nkunku est peut-être passé devant. Ok.
Oui.
Donc, pour moi, il restait Griezmann. Puis Nkunku, mais alors là, quand Nkunku se blesse, mais moi je tombe de haut quand je vois que Nabil n'est pas appelé. Parce que pour moi, c'est vraiment le profil type idéal pour remplacer Griezmann. Et puis, on ne va pas se mentir, Griezmann, bon, là, il revient au niveau depuis quelques temps, mais on n'oublie pas son début de saison un peu en dents de scie, où, ou avec l'histoire des, où il peut jouer que quoi, 40, 60 minutes, je sais pas, plus que 30 minutes, ouais. Ouais, voilà. Ou bref, il a des billettes pendant quelques temps. Là, il revient bien, il marque quelques buts. Donc voilà, on comprend que Deschamps le rappelle. Mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas.
Ouais, enfin, il revient bien. L'Atlético Madrid a terminé quatrième de sa poule en Ligue des Champions. Hein. Faut pas l'oublier non plus. Hein.
Voilà. Deux choses, Rachid. Ouais. La première, c'est Fekir, c'est aucune sélection depuis 2 ans. C'est le premier argument. On pourrait me rétorquer qu'il y a d'autres joueurs qui ont été rappelés, qui ont une longue période comme Thuram, par exemple, bien sûr.
Voilà, Fekir,
sur donc ça fait 2 ans qu'il n'a pas été appelé. Et même quand il était appelé, c'était seulement des bouts de match. Moi, là où je peux pas vous rejoindre, c'est que vous réagissez en termes de profil. Est-ce que vous êtes si sûr que ça, que Fekir, c'est le même profil que Griezmann, déjà dans un premier temps? C'est la même place, la même zone sur le terrain, mais est-ce qu'il est capable, ou est-ce qu'il a le même abattage de fournir les mêmes efforts que Griezmann? Déjà, première chose. Deuxième chose, vous parlez du profil de Griezmann, mais Griezmann, c'est un profil exclusif. Il joue parce qu'il a un vécu en équipe de France, que c'est un des tauliers de cette équipe de France, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un deuxième profil identique à celui de Griezmann. Est-ce que quand tu perds un Nkunku derrière Griezmann, donc on peut considérer que c'était le même poste, la même zone, etc., on peut voir, mais prendre un profil exclusif comme Fekir, je suis pas sûr que ce soit la solution. C'est la solution évidente dans nos têtes, mais peut-être que Deschamps se dit non, j'ai pas besoin d'un deuxième joueur comme ça, je vais prendre un joueur qui est capable de jouer à deux postes, qui est un peu plus mobile, etc. Donc pensez plutôt zone, pensez plutôt profil, mais pas zone de terrain, c'est quand même différent.
Donc si on pense profil, je suis désolé, mais
c'est pas le même Fekir, c'est pas la même chose que Griezmann.
Tu peux pas me dire que
c'est pas la même zone. La même zone, mais c'est pas le même profil.
Non mais Sofiane, t'es en train de te perdre sur zone et profil. Oui. Aujourd'hui,
c'est pas la même chose.
Non mais aujourd'hui, si tu m'expliques que entre Fekir et Kolo Muani, les joueurs qui se rapprochent le plus de Griezmann, c'est Kolo Muani.
On n'a pas besoin
par rapport à Fekir.
Vas-y, Rachid, je vous rends
la parole, les gars. Vas-y, Rachid.
Désolé. Puis on va pas se mentir, Kolo Muani, bon, il est pris pour faire le nombre, hein, parce que numériquement, à moins de, je sais pas qu'est-ce qui peut se passer.
Mais oui, ce sera le quatrième numéro 9.
Mais je vois pas.
Bien sûr. Et c'est ça, Rachid. En fait, moi, j'aimerais vous répondre, et je suis totalement d'accord avec Rachid, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, le problème avec Oussem et Sofiane, c'est qu'en fait, ils ont été anesthésiés comme tout le monde.
Pas du tout.
Par Deschamps.
Mais pas du tout.
Moi, la provoque.
Pas du tout.
Moi, je suis de voilà. Tu as juste pour terminer. Comme quoi que Nabil n'était pas appelé, que Fekir n'était pas appelé depuis 2 ans. Alors, mais déjà là, soulevons ce problème. Pourquoi le mec n'est plus appelé déjà?
Je rappelle cette saison quand même seulement 8 apparitions en Liga, 520 minutes jouées.
On a un joueur qui.
Oui. Enfin, je suis désolé.
Tout le monde est confondu d'ailleurs. Pas venu pour Liga.
Enfin, et puis
je rajoute également Rachid, t'as raison. Quand il joue, il est bon avec le Betis. C'est un homme qui a déjà ciré le banc en 2018.
Non mais parce qu'en fait, c'est
management qui va te déranger à nouveau. Non mais lui proposer à nouveau sur une Coupe du Monde de coiffeur.
Non mais en fait, avec Deschamps, en fait, on est au casino d'Anguin. C'est-à-dire que tout le temps, la banque gagne. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un choix, bah en fait c'est non mais parce que lui, en fait, vous inquiétez pas, il a connu le groupe. Vous inquiétez pas, il rentre dans l'esprit de Deschamps.
Ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est en phase avec ses idées.
Non d'accord, mais Oussem,
il est en phase avec ses idées.
Mais le problème, c'est que donc il vous a anesthésié.
Mais non,
c'est-à-dire qu'on peut plus parler de football.
Si tu considères que Fekir c'est le même profil que Griezmann, on sera pas d'accord. Et ça n'a rien à voir avec Deschamps.
Personne n'est calcable en termes de profil sur toute la liste. C'est très très dur aujourd'hui dans une sélection d'avoir les mêmes joueurs.
Par contre, il y a une vérité, Walid. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a une vérité, c'est que les joueurs ressemblent à ce que lui veut du football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'accord. Moi, j'aime pas ce qu'il propose.
Bah, vous êtes dans l'explication de Deschamps. Moi, je suis dans l'opinion. On doit avoir quand même une opinion.
Merci
ce soir.
À toi, Walid.
Ok. Non, mais je suis désolé. Donc aujourd'hui,
demain matin, c'est grand
si tu veux. Évidemment.
Je sais pas si l'after foot, c'est peut-être une émission d'explication.
Aussi.
On peut expliquer
aussi,
pendant des heures.
D'information, d'opinion, d'explication.
Ok. Bah ils l'ont fait. Ils ont fait l'explication. Moi, j'aimerais avoir un peu plus d'opinion de la part d'Oussem et de Sofiane.
T'es énervé, Walid. C'est tranquille.
Ah non, pas du tout.
C'est que c'est la famille là en face.
C'est que si on m'explique.
Envoie-le aux grandes gueules.
C'est que si on m'explique.
On s'engueule en famille.
C'est que si on m'explique qu'entre Kolo Muani, d'accord, et Fekir, les joueurs qui se rapprochent le plus du profil de Griezmann, c'est Kolo Muani et
pas
Fekir.
Tu veux qu'un mec se rapproche de son profil? Pourquoi tu veux qu'un mec se rapproche du profil de Griezmann? T'as même pas de latéraux gauche, par exemple. On va pas chercher un mec qui ressemble à un profil de latéral gauche.
Bon, les gars, on tourne un petit peu en rond, les gars. Alors, il y a beaucoup de propositions sur Direct Studio et sur Twitch également. On parle de Martin Terrier. Pourquoi pas lui?
Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut plus parler de football dans les listes de Didier Deschamps. Il prend Marcus Thuram alors qu'il doit prendre Kolo Muani.
Je suis d'accord.
Ça, on peut pas en parler. Si. Nkunku.
Ça, je suis pas d'accord déjà. Bah non, je suis pas d'accord. Il prend Marcus Thuram parce qu'il considère qu'il y a une faiblesse à gauche. Et qu'il a seulement Mbappé et éventuellement Coman, mais qu'il a personne d'autre.
Mais par contre, il n'a pas de faiblesse en deuxième créateur derrière Griezmann. La seule solution aujourd'hui, dans un 4-3-3 ou dans un 4-2-3-1 avec un numéro 10, c'est uniquement Griezmann. On va avoir des joueurs, on en a parlé avec les défenseurs, qui se ressemblent énormément. Devant, ça va être la même chose. Parce que Colomboigny, aujourd'hui, il arrive pourquoi? Aujourd'hui, il y a Benzema au poste de numéro 9, Giroud, et même si les deux se blessent, Mbappé va jouer au poste de numéro 9. Donc Colomboigny va arriver en numéro 4. Aujourd'hui, au poste d'ailier, parce que vous m'expliquez dans votre monde merveilleux que Colomboigny est un ailier, aujourd'hui, en poste d'ailier, Dembélé et Coman passent devant Colomboigny. Même Marcus Thuram, apparemment, si on lit le Deschamps, de l'autre côté, passe devant Colomboigny. Même Kylian Mbappé. Donc, qui va donner de la concurrence à Griezmann sur cette compétition? Sachant que Griezmann, on le dit souvent, il est souvent neutre dans la création. On va jouer des équipes avec un bloc bas contre l'Australie, contre la Tunisie, notamment, et on n'a pas de créateur dans notre liste. Et ça ne vous dérange pas?
Mais il en a jamais eu.
Il en a jamais eu, alors on peut plus discuter.
Non, moi ce que je suis en train de te dire,
il vous a anesthésié.
Non, je te dis pas que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Je te dis qu'il le fait. Ça y est, c'est fait. Pourquoi tu veux dire?
Mais
c'est
qu'est-ce que t'en penses, toi, Oussem?
Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il va jouer comme il a toujours fait.
Ça, on le sait. Et que
c'est le Deschamps. Et que pour gagner une compétition, mon ami Walid, c'est pas des individualités. C'est de créer une cohésion de groupe. C'est ça. C'est sa qualité première.
Bah, top,
tu peux pas lui enlever ça.
Bah,
tu peux
super.
Pas. Tu peux
on l'avait la cohésion de groupe en 2021 quand il fallait faire entrer Moussa Sissoko.
Il l'avait
quand
pas.
Il fallait faire entrer.
Tu sais
quand il fallait faire jouer l'anglais titulaire parce qu'on n'avait pas de solution. Rabiot piston gauche.
Walid.
Marcus Thuram devait faire la différence.
Il l'a admis lui-même.
On l'a vu.
Allez les gars. Il s'est perdu, il l'a admis lui-même. Et tu sais ce qui va faire la différence par rapport à la compétition précédente, et je pense que ça sera l'angle de Sofiane tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il a un peu plus la main sur son groupe. Et c'est dû à quoi? C'est dû au rajeunissement de l'effectif. C'est dû à plein de choses. C'est plus simple d'effectuer des changements avec eux. C'est plus simple de dire à Fofana Tchouaméni, les gars, je veux que vous jouiez comme ça, bloc bas, balancez devant le plus vite possible. En 2-3 passes, on doit arriver à Benzema Mbappé.
C'est super, c'est top.
C'est pas beau,
c'est déjà,
mais ça va être ça.
Ça va être ça.
Tout résumé.
Il a gagné en 2018. Et puis voilà, il a
mais moi, j'aime pas. Mais c'est ça super. Va être ça, Walid.
Du muscle et de la vitesse.
C'est le décodeur. Voilà. J'avais pas le décodeur.
Je vais remercier Rachid, les gars.
Top.
Merci, Rachid. Si tu veux rajouter un mot, tu peux le faire maintenant également. Vas-y, vas-y.
Franchement, on a Karim Benzema, Kylian Mbappé devant. On va avoir personne pour les servir. C'est
si, tu vas les avoir.
Si, tu vas les avoir.
C'est une offense pour Tchouaméni, Fofana et Rabiot.
Laissez parler Rachid, les gars.
Il est capable comme de distribuer des super ballons, que ce soit en profondeur dans les pieds, il combine. Enfin bref, c'est du football. Griezmann, je veux bien, vous mettez toujours en avant le fait qu'il court de partout, qu'il défend, mais franchement, on a envie de voir du beau football. Je pense que c'est la dernière de Deschamps.
Rachid, tu vois, j'ai une scène, moi, Ligue des Nations contre l'Espagne. Tu vois le but que met Karim Benzema, l'enroulé en lucarne opposée.
Regarde
en combien de passes ils sont arrivés devant et regarde où était Griezmann sur l'avant-dernière passe.
Il était
milieu relayeur. Et ça va être ça, l'équipe de France. On va récupérer très bas. En trois passes, on va arriver à Benzema.
Oussem, on le sait.
Tu vois, c'est tout. Capable de faire ça.
Ça arrivait rarement.
Pourquoi pas?
Non, c'est pas capable de m'en citer deux, ça, par exemple.
C'est l'objectif de Didier Deschamps dans une compétition. T'auras pas des scores fous.
C'est
pas. Mais je sais que c'est
fondamental. Un joueur qui gagne direct, la vitesse de Mbappé.
Merci Rachid.
Merci Rachid. Tu reviens quand tu veux. Je rappelle qu'on sera là pendant toute la Coupe du Monde. Tous les matchs seront diffusés sur RMC. L'after jusqu'à 1h du matin, bien sûr, exceptionnellement, les gars. Voilà pour le cas Colomboigny. Dans un instant, on va parler notamment des matchs amicaux qui sont joués aujourd'hui. La vie de Sofiane à 21h aussi, qui lui demande de l'indulgence, peut-être, pour Deschamps. Si je passe à côté de son mondial,
hein?
T'inquiète pas. Non, on va couper le micro pendant une heure maintenant. Il a assez parlé. Vous avez des quotas, les gars, j'ai un compteur, hein, comme pour les débats pendant la campagne présidentielle. De 2 minutes.
C'est surtout le volume.
Tu as 2 minutes d'avance sur Oussem. Alors, le volume, n'en parlons même plus.
Ouais, je conseille aux auditeurs de baisser un peu.
Parce que deux accidents sur la route déjà, on
est sur le prochain débat, de vraiment baisser un petit peu.
Allez, restez avec nous, c'est Génération After avec Oussem Loussaïef, Sofiane Zouaoui et Walid Acharchoua. Tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Merci d'écouter RMC, il est 20h47, on est ensemble jusqu'à 22h. C'est Génération After comme tous les soirs. Et ce soir, avec ce casting, Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui de Winamax FC et Oussem Loussaïef, messieurs.
Ça me fait très bizarre d'avoir Sofiane en face de moi.
Et même lui était surpris parfois par son emportement alors qu'il te connaît comme si t'avais fait.
Alors qu'on fait des émissions tous les jours.
Il m'a regardé, il a fait. Ouais, c'est donc ça le phénomène Walid
Acharchour. D'ailleurs, est-ce que ton décompte est pris en compte d'ailleurs pendant la pub?
Non, quand même pas, ah, cher.
Non, parce que
sinon il a brûlé, c'est terminé. Sinon il a quitté le studio. Et il bosse plus pendant 2 mois aussi, je pense.
Bon, le handball, Nico Palancy, France-Espagne, l'Euro féminin.
Ouais, vous débattiez du remplaçant d'Antoine Griezmann en équipe de France de hand. On n'a pas ce souci-là parce que les remplaçantes sont en train d'atomiser l'Espagne. C'est assez incroyable ce qui se passe quand même. 8 pour la France, 4 pour l'Espagne après 15 minutes de jeu. L'Espagne qui a son équipe type, hein, qui est donc une des meilleures nations mondiales. Et nous, avec Léna Granvaux, 19 ans, qui a 3 sélections, avec Audrey Dembélé, 21 ans, on est en train pour l'instant de largement dominer l'Espagne. Plus 4 pour la France, 8-4, 8-5 avec la réduction de l'écart des Espagnols.
Et toi Nico, dans une liste, quand il y a un pivot qui est absent, il est remplacé par un ailier, non, c'est, comment ça se passe au hand?
Non Wally, t'as raison, ouais. Un pivot est toujours remplacé, ouais, par un pivot.
D'accord, ok, ça marche.
Ouais, tu vas comparer les sports toi maintenant?
Oh, ça va. On peut plus rigoler. Sofiane me reproche de rigoler maintenant. Attends. Et de troller. C'est attends. Fort quand même.
Alors les gars, quelle énergie ce soir les gars. Magnifique. C'est la jeunesse, hein.
Ouais, mais pas que la
fraîcheur. C'est Génération After. Voilà un slogan. Tiens, faut le faire.
C'est pas mal,
d'ailleurs
ça.
Demain soir, de la fraîcheur dans Génération After. Nous avons lancé notre opération un auditeur, un afterien ici. Et en oui. studio ah. avec vous pour débattre. Ça démarre demain soir. C'est la promesse qu'on avait faite en début de
super.
Saison.
Incroyable.
Et bien voilà, vous pouvez encore postuler, appeler Max 32-16, on a une liste immense bien sûr.
Ah, c'est génial.
Et quelqu'un, l'un d'entre vous sera avec nous demain soir en studio.
Ah, c'est génial.
À partir de 20h.
Il va rentrer dans le cercle quoi.
Exactement.
Bravo.
Les gars, un point sur les matchs amicaux quand même du jour, hein, à 4 jours du début du mondial. L'Argentine par exemple qui a battu les Émirats Arabes Unis 5-0. Messi a joué tout le match. Je pense que dans le contrat.
Contrat de quoi?
Avec les Émirats, a priori, peut-être.
Ah ouais?
Oh là là, tout de suite.
Tu penses pas préparation, tu penses contrat tout de suite.
Tu as raison.
Tu te dis pas, le gars, il va être
très position. Mauvais.
Ce biais là.
Ouais, c'est incroyable. Chaque fois, Nico.
Mais vous en pensez quoi en vrai?
Hein? Ouais, t'as raison.
En vrai, je trouve que sinon, il n'y a pas de chèque.
Il a pas tort.
Tout le match, il a marqué un but, il a délivré une passe décisive, doublé de André Di Maria.
Ah, il revient en forme, lui. Lui,
il a bien géré sa joue. Très bien géré.
Lui, la Juventus.
Il est fort en gestion. Il est fort en gestion.
Ne parle pas de Allegri, Fadio.
C'est l'excuse, fatigue musculaire. Ah, c'est quoi exactement? Non, c'est fatigue musculaire.
Je me suis réveillé ce matin, j'avais une petite pointe sur la cuisse.
Exactement.
Ça. Julian Alvarez également a marqué. Joaquin Correa sont les buteurs. 36e match consécutif sans défaite pour l'Argentine qui débutera ce mondial.
Le petit Alvarez.
Ah, de City, ouais.
Bien sûr.
Ouais. Même si bon, ça va être Lautaro Martinez qui sera
bien sûr. À chaque fois qu'on le voit à City, c'est
c'est vrai qu'il fait des bons
efficaces.
Pas mal.
Il est en train de le couver Guardiola, tu vois. Il sait qu'il va le lancer encore un peu plus la saison prochaine.
Ouais. Après, il a quand même un cyborg
devant lui, quand même.
Ouais. C'est facile de le couver. Ouais. Il va bien le couver, je pense.
L'Argentine qui débutera ce mondial contre mardi, hein, contre l'Arabie Saoudite, qui a été battue 1-0 par la Croatie, but de Kramaric. Ah. Voilà, les gars, pour les infos. Messi, puisque j'en parle, qui a donné une interview à la Conmebol, qui précise qu'il est proche de la fin de sa carrière. Scoop.
Ouh là là, au PSG, on n'est pas bien.
Il a 35 ans. Non, mais t'as raison de le dire, parce que le PSG, il a même déjà une proposition de prolongation de contrat. Lui décidera après la Coupe du Monde. Hein. C'est ce qu'il a déjà expliqué. Il dit, j'adore jouer, j'en profite, mais je ne pense pas que je jouerai encore beaucoup.
Voilà, oui.
35 ans.
Si ça gagne la Coupe du Monde, on peut te dire que la prolongation, ça peut être
un petit kiff après, États-Unis ou autre. On en reparlera, bien sûr. Cristiano Ronaldo, forfait pour le match amical du Portugal demain soir contre le Nigeria. Une gastro.
Un petit gastro. Modeste estomac, oui.
Modeste estomac, tu peux le dire plus élégamment que moi.
Voilà,
c'est gastro, voilà.
On lui souhaite un prompt rétablissement.
Voilà. Fernando Santos a dit aujourd'hui que les déclarations de Ronaldo sur United, dont on a parlé lundi soir dans l'after, n'ont pas d'effet sur la sélection. Ils n'en auront pas.
Bah oui.
Oui.
Oui, non.
Il protège sa sélection, évidemment.
Oui, bien évidemment.
Quant à la poignée de main très froide entre Bruno Fernandes et Ronaldo, Joe Mario l'a redit en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit non, c'était une blague, parce que Ronaldo a dit à Bruno Fernandes, qui est arrivé en dernier, t'as pris le bateau pour venir ou quoi? Voilà.
Petite blagounette.
Et je sais pas si vous avez vu également l'affiche géante de Ronaldo.
Retiré
sur les murs extérieurs d'Old Trafford et retiré décision du club.
D'accord.
Pas de temps.
Ouais, mais de toute façon, je pense qu'il va pas trop mettre les pieds à Manchester, là, ni lui ni sa famille, je pense, dans les prochaines
semaines. Triste fin, quand même.
Mon cher Oussem, troisième adversaire de l'équipe de France en phase de poule, la Tunisie.
Favori de la poule.
Qui a joué aujourd'hui et qui a battu l'Iran 2-0.
Exactement. 2-0, but de Sliti sur penalty, but de Abdi, le latéral de Caen. Sur un 3-5-2 qui sera sûrement le 3-5-2 qu'on va souvent voir avec la Tunisie, puisque l'efficacité côté tunisien
et sur la ligne défensive. Alors à 2-3 joueurs près, puisque dans les 3 de derrière, c'est Talbi, Gandry et Meria. Je pense qu'il y a Dylan Brown qui va venir s'insérer là-dedans.
Au milieu, et qui va vite repartir, carton rouge.
Non, là c'est la Coupe du Monde, j'espère pour lui qu'il il sera un peu plus concentré. Après sur les ailes, on a eu Abdi, peut-être que ça sera l'ancien de l'équipe nationale qui s'appelle Mahloul qui est arrière-gauche. On a Draguer d'autre côté. Au milieu de terrain, on a un trio qui peut ressembler à quelque chose et qui peut être pas mal. Skiri, Laidouni et Hannibal Mejbri qui est mieux depuis qu'il est à Birmingham, qui est beaucoup mieux.
C'est clairement le secteur clé de,
exactement. Et puis devant, on mise sur l'expérience avec Msekni et Kazri. Donc vous l'aurez compris, à la différence de Didier Deschamps, ce ne sera pas deux lignes de 4, ce sera une ligne de 5 bien définie derrière et 3 bons joueurs au milieu de terrain qui sont capables de se projeter aussi. Après, pour revenir sur la Tunisie, et là je ne sais pas si on peut en parler,
bien
Nico,
sûr, on peut parler de tout.
Ils font avec leurs armes.
Mais c'est, vous avez fait un bon match contre l'Iran. Enfin, ils
c'est,
ont fait un
c'est très défensif.
C'était alors, l'équipe A de l'Iran. Il n'y avait pas de.
Oh ouais, non, c'est, il y avait Tarek et tout. C'est pas
que l'Iran, moi, je les vois deuxième de.
C'est un bon match. C'est, le match n'a pas été diffusé, mais j'ai eu des membres du staff qui m'ont confirmé que c'était un match très très difficile pour la Tunisie. Ils ont souffert pendant tout le match. Ils ont beaucoup défendu.
Comme souvent.
Exactement. Mais en même temps, c'est leur force, la Tunisie, de défendre beaucoup et de défendre correctement, notamment avec Talbi qui est en ce moment pas mal depuis le début. Disons même avec Lorient. Je le disais, c'est un contexte particulier. Et là, je m'adresse aussi aux supporters tunisiens, parce que je regarde un peu ce qui se passe autour de la sélection tunisienne. Il faut savoir que la Fédé tunisienne et la Tunisie n'ont pas de gros moyens quand tu les compares à des grosses nations du continent africain comme l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup moins de moyens financiers et même en termes de talent ou de joueurs évoluant en Europe. Si tu compares l'Algérie,
le Maroc
ou la Côte d'Ivoire ou même le Maroc, si tu veux, même des équipes. Je te parle même des équipes qui ne sont même pas qualifié. En plus,
le Maroc, il y a les binationaux aux Pays-Bas, en Belgique, en France.
Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins en Tunisie. Même s'il y en a beaucoup, il y a un travail qui est fait depuis quelques années. Moi, j'aimerais mettre en avant quand même que dans cette difficulté, la Tunisie essaye de faire quelque chose avec leurs armes. Il faut le dire, on n'a pas des grands moyens en Tunisie, que ce soit pour les joueurs, que ce soit même dans les infrastructures. Il y a toute une petite guéguerre qui se passe en ce moment entre le ministère des Sports et la Fédération. On dit du côté de la fédération qu'on n'a pas beaucoup de moyens et c'est vrai que ça peut se retranscrire, on le voit. Il n'y a pas un appui énorme du côté de l'État pour la fédération tunisienne de football. Donc ils essayent, le président Wadi Jalil, il essaye de faire des choses. Il a mis dans le staff Boumnigel, il a mis Slim Benachour, des gens qui ont gagné avec la Tunisie. Et ça, c'est un message qu'on peut transmettre aux joueurs. Donc ils vont arriver dans ce mondial avec leurs armes. Ils ont fait un bon match amical, si bon, et si on peut définir le mot bon par faire ce qu'ils savent faire. Ils ont bien défendu, ils vont se projeter, ils vont compter sur Kazri, sur Msekni.
Comme ce qu'ils ont fait à la CAN, même si c'est un contexte différent.
Exactement. Donc la Tunisie, il ne faut pas s'attendre à ce que ça reparte avec du jeu alléchant, etc. Mais ça va très bien défendre et ça va essayer de jouer les coups à fond. Et notamment, et je pense que c'est leur point fort, c'est les coups de pied arrêtés. Je pense qu'ils sont très très bons sur les coups de pied arrêtés. Il y a de la taille, il y a du bon timing et tout. Je pense qu'ils vont jouer là-dessus et ils se battent avec leurs armes.
S'il y a un joueur à suivre, Nico, c'est
Laidouni.
Laidouni au milieu de terrain.
Aïssa Laidouni.
Encore fait un très bon match contre Monaco. Il joue à Ferencváros en Hongrie. Il était dans la poule de Monaco et même contre le Brésil en deuxième mi-temps, c'est celui qui a essayé de tirer le milieu vers le haut. Et à la CAN aussi, c'était intéressant.
Mais tu sais, il y a une histoire un peu similaire avec la France. La Tunisie est très souvent critiquée sur les plateaux tunisiens. Il y a des émissions de foot bien plus qu'en France. Ils font que de critiquer la sélection.
C'est le cas aussi en Algérie d'ailleurs. Et ça,
moi, de ce qu'on me dit, ça a gonflé les joueurs. Ils sont à bloc là-dessus.
Seul contre tous.
Ça a créé une solidité, une solidarité au sein de l'effectif. Et moi, franchement.
C'est un ressort qui existe.
Je pense que ça peut le faire. La cohésion, ça peut le faire.
Ça peut faire quoi?
Pour essayer d'aller chercher la deuxième place.
Non, mais Oussem, plus sérieusement.
Derrière qui?
Tu verras.
Derrière qui?
Derrière la France.
Je pense qu'on
voit le Danemark plus beau que ce qu'il y a.
Rappelons 2018, la poule qui était très compliquée. J'avais pas trouvé la Tunisie si ridicule que ça.
Pas 2014. 2014
aussi, c'était
Angleterre. Angleterre, Panama et Belgique.
Juste un mot sur l'Iran, donc qui a été battu par la Tunisie. Le match n'a pas été diffusé en Iran à la demande de la fédération iranienne. Vous savez que ce pays est plongé dans une grave crise
et qu'on est un mois jour pour jour du début de la crise.
Que Carlos Queiroz a expliqué hier qu'il n'interdirait pas à ses joueurs de envoyer des messages politiques pendant cette Coupe du Monde. Donc,
il y avait notamment Azmoun, la grande star de cette équipe-là,
très impliqué,
qui est très impliqué.
Très engagé. Voilà les gars, et puis tiens, information également que me donne Jimmy Brown à l'instant. Le remplaçant d'Amin Harit pour la sélection du Maroc, c'est Anas Zarouri, milieu terrain offensif ailier de Burnley en Championship.
Qui a été
13 matchs, 4 buts cette saison.
Qui est pas belge
aussi. Qui est belge et qui est approché par la Belgique, par la fédération belge pour intégrer la sélection. Donc voilà.
Roberto Martinez l'a appelé plusieurs fois pour,
exactement,
pour choisir la Belgique et
il a refusé.
Il a refusé pour aller au Maroc.
Les gars, dans un instant, on fait une pause dans un instant, l'avis de Sofiane Zouaoui qui va demander de l'indulgence pour Didier Deschamps. C'est un avis assez rare dans l'after et ça fait plaisir, ça fait du bien également. Un homme qui va pas tomber sur l'équipe de France. Provoque.
Nico, ce soir, j'ai fait quelque chose.
Allez, reste avec nous. C'est Génération After sur RMC. 20h57, à tout de suite.